On va ouvrir le micro, ça va aller mieux. Ouais, sortie cinéma, c'est, je l'ai mentionné déjà, là, mais le mythe de la femme noire qui joue ce soir à la Maison du cinéma, en présence de la réalisatrice Ayana Oshun, qui a pris le temps de venir nous voir ici en studio plus tôt aujourd'hui pour qu'on discute un peu de ce film-là. Un documentaire qui veut démystifier un peu une image
particulière.
Stéréotypes envers les femmes noires qui se déclinent en trois trucs, essentiellement l'espèce de mythe de la Gisèle. Belle, c'est-à-dire là, cette bête sexuelle là, si on veut là, c'est une image beaucoup véhiculée par peut-être la publicité, les médias, le cinéma, des trucs comme ça. L'image de la nounou, hein, Aunt Jemima, puis tous ces trucs là, et l'image de la, je sais pas comment dire, de la bitch ou de la femme, je sais pas, qui aime ça.
De caractère là.
Ça, de caractère effectivement. Ces trois images là, puis à travers divers témoignages de plusieurs intervenantes, ben ils démystifient un peu ça en disant, en expliquant un peu d'où vient ce préjugé là, puis comment est-ce que des gens du dom, parce que Ayana Oshun, c'est une actrice aussi en plus d'être réalisatrice, puis on a le parcours évidemment des actrices, parce que quand t'es au cinéma, les rôles, souvent pour les femmes noires, ben c'est toujours dans ces trois catégories-là, disons. Donc, t'as des gens du milieu cinématographique qui témoignent, mais aussi des militantes, du monde, de tous les jours.
Il y a les noirs aussi, j'imagine.
Oui, exactement. Okay. Donc, c'est ça, c'est 21 intervenantes qui prennent parole. Il y a Sarah May dedans, il y a, en tout cas, il y a plein de...
Je pensais m'arrimer, je l'ai...
Non, elle peut pas être plus blanche que ça,
ouais,
je pense.
Non, c'est ça.
Mais bref, vraiment un film très intéressant, puis une entrevue fort intéressante également, d'Ayana Oshun. Donc, on s'en va écouter ça et on revient vers 17h15 pardon, pour parler à Jesse Murray.
Donc, je suis maintenant en compagnie d'Ayana Oshun pour parler de son nouveau long-métrage documentaire Le mythe de la femme noire, qui est présenté en avant-première ce soir à la Maison du cinéma, jeudi en fait, à la Maison du cinéma, et qui prend l'affiche également ici et dans d'autres villes au Québec, donc vendredi. Salut Ayana, ça va bien?
Ça va bien, merci Alexandre.
Je suis fébrile de te parler un peu parce que c'est vraiment un très, très bon documentaire que celui-là. Un documentaire qui vise un peu à démystifier certaines idées préconçues du film. On pourra parler un peu de ces idées-là, mais on comprend évidemment la pertinence du documentaire. Pas besoin de te demander non plus pourquoi tu as fait ce film-là. On le comprend assez clairement, mais je vais peut-être te demander, est-ce que c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps et qu'est-ce qui t'a finalement donné l'opportunité ou l'occasion de faire ce film-là? Donc, ça a été quoi la bougie d'allumage justement du projet?
Ben, c'est un film, ça fait au moins 10 ans que je veux le faire. Puis, j'ai voulu le faire parce que les représentations des femmes, puis en particulier des femmes noires que je voyais dans les grands médias, je trouvais que ça ne me correspondait pas. Mm-hmm. Puis, vu que je travaille aussi comme comédienne, j'étais souvent appelée à auditionner pour des rôles assez stéréotypés. Fait que je me suis demandé d'où venaient ces stéréotypes. J'ai commencé à lire là-dessus. Puis plus je lisais, plus je remontais dans les siècles passés jusqu'à réaliser qu'ils avaient été inventés il y a très, très longtemps. Puis ils avaient parcouru l'histoire pour se retrouver aujourd'hui, cinéma, télévision, vidéoclip, etc. Donc, ce documentaire, Le mythe de la femme noire, vise à raconter l'histoire des stéréotypes, faire comprendre d'où ils viennent, puis surtout donner la parole à 21 une femme qui raconte comment ces stéréotypes-là les ont influencés, comment ça influence leur 21e siècle et surtout qui raconte comment elle réussit à les défier puis à se créer une place au soleil. Donc, c'est sûr que c'est un projet, comme tout documentaire, c'est difficile à faire de trouver le financement et tout ça, etc. Mais... Donc, je travaille avec ma partenaire, qui est aussi ma sœur, comme coproductrice.
Okay.
Puis, il y a 10 ans qu'on cherchait l'argent puis qu'on pitchait le projet à des diffuseurs ou autres, les gens, en général, ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on racontait, c'est quoi ça, quel stéréotype, je ne sais pas de quoi vous parlez. Puis éventuellement, après quelques années où on a essuyé des refus, on a mis le projet sur une tablette. Puis en 2018, on a repris notre bâton du pèlerin, puis on s'est dit, ça fait longtemps qu'on veut faire ce film-là, puis il y a des choses qui se faisaient en Europe particulièrement par rapport à ce type de sujet-là. Fait qu'on s'est dit, peut-être que le temps est mûr, peut-être qu'on aura une meilleure écoute quand on présentera le projet. Puis, mais je dois dire, c'est surtout depuis 2020 que les gens comprennent.
Heureusement ou malheureusement, là, parce que c'est souvent des situations très grave qui mettent en lumière un peu là, toutes ces... Qui, en tout cas, qui chamboulent un peu les perceptions.
Oui,
et
oui,
tout.
Oui. La mort de George Floyd a bousculé plein d'industries, effectivement.
Ouais. Donc, ces mythes-là, c'est beaucoup... Ben, il y en a trois qui sont... principaux, disons, c'est-à-dire un peu le mythe de Jézabel, c'est-à-dire cette femme hyper sexuée-là. Il y a le mythe de la nounou aussi, donc puis il y a celui aussi de la femme colérique enragée, si on veut. C'est des idées des idées préconçues qui ont été un peu véhiculées par la publicité, mais aussi beaucoup par le cinéma et la télévision. Toi, tu te sers de ces mêmes outils-là pour les déconstruire au final, ces mythes-là. Je trouve ça quand même assez habile. Je vais avoir une question qui va suivre dans quelques instants, mais j'aimerais parler avant des intervenantes. Comment t'as sélectionné ces intervenantes-là? Parce qu'il y en a qui proviennent effectivement du milieu des médias, de la télévision, au cinéma, mais il y a aussi beaucoup de militantes, de gens impliqués dans la communauté qui témoignent également, puis qui sont elles aussi victimes de ces mythes-là. Donc, comment t'as sélectionné ces personnes-là? Comment t'as rencontré...
Oui, ben au niveau de la recherche, il y a certaines femmes que je connaissais, d'autres pas du tout. Puis pour moi, c'était important d'avoir des femmes issues de différents milieux, qui avaient différents âges, différentes textures de cheveux, différentes couleurs de peau, différents accents. Elles sont toutes basées au Québec, habitent ici, sont de première ou deuxième génération ou même troisième génération. Mais c'était pour moi important d'avoir cette diversité de femmes-là. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'en recherche, j'en ai interviewé, moi et mon équipe de recherche, beaucoup plus. Ouais. Mais à la fin, on a dû faire des choix difficiles. 21, c'est déjà beaucoup. J'avais aussi interviewé quelques hommes. Mais en cours de montage, on a réalisé que c'était préférable ou plus fort, en fait, de donner la parole seulement à des femmes pour se raconter elles-mêmes, étant donné que ce sont des voix qu'on entend extrêmement peu.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des personnalités ou en tout cas des intervenantes que tu aurais aimé, qui participent au documentaire, puis finalement, peut-être conflit d'horaire, par la force des choses, ça n'a pas pu fonctionner?
Oui, il y en a que je voulais interviewer, ça n'a pas fonctionné, soit qu'elles n'étaient pas au Québec et tout ça, mais il y en a d'autres qui préféraient ne pas témoigner, en fait, devant la caméra, parce qu'elles avaient peur que ça influe sur... que les choses qu'elles allaient dénoncer allaient influer sur leur carrière.
Est-ce que tu as eu peur, toi? Parce que tu le mentionnes, tu as une carrière d'actrice, de scénariste. Bon, tu fais quand même beaucoup dans le documentaire, mais tu continues à évoluer dans le métier aussi. Est-ce que tu avais peur un peu de te fermer des portes en faisant ce documentaire-là?
Ça m'a traversé l'esprit en période de production du film. Ça m'a traversé l'esprit, mais en même temps, je me suis dit que je ne peux pas passer ma vie à avoir peur. C'est sûr que comme comédienne, on est au service de l'histoire que veut raconter un scénariste ou un réalisateur.
Ouais.
Mais moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Puis peut-être que cette peur-là est basée sur absolument rien. Et puis que c'était important quand même pour moi de donner une voix à ces femmes-là, d'essayer à ma manière de contribuer à faire évoluer les choses. C'est vrai que depuis 2020, il y a, au niveau de la quantité de rôles offerts aux personnes racisées, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus.
Ouais.
Puis on le voit à la télévision surtout.
Des rôles de qualité, là, on va dire ça comme ça aussi, là, parce que c'est pas des rôles trop stéréotypés. Il reste encore, évidemment... C'est une progression, là, veut pas, mais c'est ça, c'est des rôles moins restrictifs ou en tout cas moins cadrés dans ces trois mythes-là.
Je sais pas. Moi, non, j'ai l'impression qu'en termes de quantité, il y en a beaucoup plus, mais mon impression, c'est qu'il y a encore du travail à faire au niveau, justement, du type de représentation. J'ai beaucoup d'amis, des comédiens noirs qui jouent systématiquement des rôles de voyous, de gangs de rue, de criminels.
Ouais.
Donc, il y a encore... oui, il y a des hommes noirs qui font partie des gangs de rue, mais on sait très bien qu'il n'y a pas que ça. Mm-hmm. Puis que le fait de représenter toujours ce même type de représentation, non seulement ça stigmatise, bien sûr, mais ça met de côté toute une partie de la population des histoires qu'ils ont racontées, de leur expérience, de leur richesse et tout ça.
Mm-hmm.
Puis avec le film, même si les femmes, elles sont en train de parler des stéréotypes, je ne voulais pas faire un film où les femmes, justement, font juste se plaindre et se mettre comme victimes.
Ouais.
Ce sont toutes des femmes qui sont inspirantes, qui ont tout fait pour justement aller à l'encontre de ces stéréotypes, qui ont lutté à leur manière, plusieurs avec, en fait, beaucoup d'humour, qui sont ressorties avec un regard plein de... C'est pas légèreté le mot, c'est qu'elles ont un regard qu'elles ont appris à être détachées parce qu'elles ont fait un travail extrêmement important sur elles-mêmes. Donc pour moi, c'est important d'avoir ces modèles de femmes-là. Puis je voulais faire un film, on dit en anglais « empowering ».
Ouais.
En français, c'est quoi? C'est « empuissancement », c'est moins beau, là.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de belle traduction pour ça, mais ça aussi, c'est un questionnement que j'avais parce que oui, tu sais, à la base, ce film-là veut déconstruire ces images-là, mais au final, la visée, c'est aussi porteur d'espoir pour d'autres femmes qui peut-être qui vivent assurément là, sont victimes de ces trois préjugés-là, puis pour leur montrer un peu qu'il y a de l'espoir, qu'il y a moyen un peu de vivre une bonne vie tout en se détachant de ces images-là.
Oui, bien, en essayant de s'en libérer, en fait.
Mm-hmm, ouais.
Puis, quand le film a été présenté la première fois au Québec, c'était au Festival des documentaires de Montréal, le RIDM.
Ouais.
Puis, la salle était une salle hyper diversifiée, des Blancs, des Noirs, des hommes, des femmes autochtones, latinos, mm-hmm. etc. Puis, ce qui était beau, c'est que dans les questions-réponses qui suivaient, c'est que tout le monde avait quelque chose à dire. Il y a des femmes blanches qui ont dit « Waouh, c'est vrai que dans la lutte des femmes, tu sais, il y a beaucoup de choses à travailler, mais on n'avait pas réalisé qu'il y avait quand même des particularités par rapport aux femmes noires ou aux femmes racisées, fait que ça leur a comme ouvert les yeux sur d'autres choses. Dans mon équipe, par exemple, il y a le monteur sonore ou même le directeur photo qui sont des hommes blancs puis qui ont dit... OK, mais moi, tu sais, j'ai des gens que je connais qui sont des femmes noires, mais j'ai l'impression que maintenant, je comprends quelque chose que je n'avais pas réalisé du tout par rapport à l'expérience. Ça m'a ouvert les yeux par rapport à quelque chose qui semble aussi banal que la manière dont on porte ses cheveux.
Mm-hmm.
Chez les femmes noires, c'est pas seulement esthétique, ça porte un discours politique, social, personnel, intime, que c'est un choix extrêmement profond de porter ses cheveux d'une manière ou d'une autre,
mm-hmm.
par exemple.
De ton avis, est-ce que tu crois que la façon de déconstruire ces images-là, ça passe mieux en format documentaire ou en format fiction? Parce que on le sait, en tout cas, le documentaire, habituellement, est plus difficile à distribuer en salle. Donc, c'est souvent que ce soit avec les rendez-vous, justement, de documentaires à Montréal ou en tout cas, il y a différents types de festivals qui mettent de l'avant le documentaire. Mais c'est rare qu'ils ont des distributions à grande échelle aussi. Donc, de ton côté, t'as fait des courts-métrages documentaires, maintenant un long-métrage documentaire. Est-ce qu'un jour, tu vas être porté vers la fiction pour poursuivre un peu ce combat-là contre ces images?
Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. C'est sûr que j'écris aussi bien des documentaires que de la fiction. La fiction semble... Le documentaire semble... En fait, c'est plus... Ben, je vais le dire, rapide. Parce qu'il mm-hmm. y a quelque chose de plus libre, de plus indépendant.
Ouais.
C'est des petites équipes. Les budgets sont beaucoup plus réduits. Donc, au niveau de la production, il y a je dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus simple.
Ouais.
Parce que les enjeux, surtout financiers, sont beaucoup moins élevé.
Mm-hmm.
Mais au niveau du public, c'est vrai que la fiction a une portée plus large et beaucoup mieux distribuée que le documentaire. Mais je pense quand même que le documentaire a sa place de plus en plus, je pense. Puis qu'il y a quand même manière d'éveiller les consciences par ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, des professeurs nous passaient des documentaires, puis ça m'a fait ouvrir les yeux sur toutes sortes de réalités que je connaissais pas. Fait que c'est sûr que les universités, les cégeps, les secondaires même, sont des portes d'accès vers le documentaire. Puis les quelques salles de cinéma, comme la Maison du cinéma à Sherbrooke,
ouais.
Sont de belles opportunités pour que mm-hmm. ce genre de film-là puisse être revu.
Ouais, puis après ça, après la vie en salle, après ça, c'est pas facilement distribuable, mais c'est plus accessible souvent, que ce soit au secondaire, cégep, université et tout. Là.
Tout
donc, j'ai reçu beaucoup de réalisatrices ici, très peu de réalisatrices noires, malheureusement, mais j'ai reçu beaucoup de réalisatrices, puis souvent, la chose qui revenait souvent, puis qui mentionnait un peu quand même dans le documentaire, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur, essentiellement. Puis j'ai le goût, j'ai pas nécessairement le goût d'être pessimiste, là, mais de ton point de vue, qu'est-ce qui pèse le plus lourd pour toi? Est-ce que, parce que maintenant qu'il y a une plus grande ouverture envers la diversité culturelle, que ce soit au cinéma, à la télévision, même dans les médias traditionnels, qu'est-ce qui pèse le plus pour toi? Est-ce que c'est d'avoir à combattre jour après jour contre ces images préconçues-là, ou c'est plutôt justement cette pression-là, de, ou en tout cas ce sentiment qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que tout de suite on va être discarded, j'ai pas le terme.
Mis de côté. Ben, j'ai grandi avec le concept que j'avais pas le droit à l'erreur. Très tôt dans ma famille, on m'a dit que on m'a fait réaliser, tu sais, tu fais partie, parce que les enfants n'ont pas seulement conscience de tout ça. Mais très tôt, on m'a dit que ben il fallait que je performe à l'école ou ailleurs, puis essayer d'être dans les tops de la classe, puis d'essayer de tout faire. Mm-hmm. Quitte à, je me rappelle, il y avait des, parfois je passais des nuits blanches à étudier, et puis c'était encouragé. Ma mère disait, oui, c'est important, c'est bien, il faut que tu performes parce que tu pars avec quelque part en arrière par rapport à la majorité démographique. Donc, c'est cette pression de la performance puis de ce perfectionnisme, c'est quelque chose avec laquelle moi, j'ai grandi, puis d'autres femmes ont grandi, puis des femmes racisées, je pense quand même encore plus. Puis... Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça devient internalisé. C'est sûr qu'avec les années, maintenant comme adulte, je vois le côté positif, mais il y a toujours un yin et un yang dans tout. Mais le côté négatif existe. Puis le côté négatif, c'est ça, cette espèce de pression. Puis on en parle dans le film avec le principe du potomitan. Le potomitan, c'est un terme créole. C'est la poutre centrale qui soutient une maison. Puis dans les Caraïbes, on utilise ce terme-là pour qualifier des femmes qui soutiennent la famille, la communauté, et puis qui en prennent énormément sur les épaules pour faire... évoluer leur famille. Donc, cette pression du potomitan, effectivement, je l'ai vécue et je la vis encore, mais j'essaie de... je fais de mon mieux.
Ouais. Tu as l'air d'identifier 2020 comme un moment quand même charnière dans l'ouverture, disons, à la diversité culturelle ici au Québec. Ça fait quand même plusieurs années là, que tu es dans cet univers-là assez particulier. Puis, cette évolution, elle se démontre comment? Tu disais plus de rôles. Toi, est-ce que tu l'as ressenti, que ce soit au niveau de ta carrière ou des gens que tu côtoies? Là, elle se voit comment, cette évolution-là? Puis est-ce qu'elle est assez rapide? Est-ce qu'elle n'est pas assez rapide?
Non, ça a été extrêmement rapide. Ça a été du jour au lendemain.
Oui, carrément.
Oui. Je veux dire, le nombre de comédiens de la diversité, on parle des Noirs, mais on parle aussi des Latinos, des Autochtones qui travaillent, c'est énorme. Puis même au niveau des diffuseurs, ils cherchent des nouvelles voix. Puis ça s'est fait rapidement, que ce soit chez les plus jeunes ou des voix de personnes racisées. Donc, on sent une volonté de changement, une volonté de renouveau, une volonté d'entendre des nouvelles voix. Puis je pense aussi que la multiplication des plateformes puis la démocratisation des contenus à travers le monde a beaucoup contribué à ça. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'aujourd'hui, tout à fait, il y a une écoute telle que j'ai jamais vu ça.
C'est sûr qu'on est... ça fait pas très longtemps, 2020, puis en ce qu'avec la pandémie, on dirait que ça fait encore moins longtemps. Mais la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, on recevait l'équipe de Respire, Ahmed, qui est le personnage principal, l'acteur, en fait, du personnage principal, me disait que souvent, lui, sa génération ne se retrouvait pas vraiment dans notre cinéma québécois. Là, ça fait juste 2-3 ans, mais est-ce que, tu sais, des gens là, qui n'opèrent pas dans le milieu cinématographique québécois, tu sais, les gens de tous les jours là, qui font juste aller au cinéma voir un film et tout, est-ce que tu remarques qu'ils commencent à se retrouver un peu plus dans notre cinéma? cinéma ou même dans le cinéma en général américain aussi. Là.
Ben c'est ça, c'est que le rouleau compresseur américain est énorme. Ouais. Puis les moyens publicitaires qu'ils emploient pour intéresser ben, la jeunesse partout au monde, c'est un problème qu'on trouve au Québec, mais partout au monde, les jeunes préfèrent nettement les films américains à n'importe quel autre film. Ils préfèrent nettement les contenus Netflix. bon, Netflix a du bon aussi parce qu'il y a des séries bon, de la Corée et ouais. d'autres qui performent énormément. Mais c'est extrêmement difficile de retirer son épingle du jeu. Puis je sais que les diffuseurs puis les distributeurs s'arrachent les cheveux à essayer de comprendre comment les attirer. C'est vraiment un travail de profondeur et un travail de long terme parce qu'il se fait de très belles choses ici. Mm-hmm. Puis depuis 2020 en particulier, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont employés à faire sortir ça. Je pense que certains commencent un peu à y réussir, mais ça va être un travail de longue haleine parce que la compétition pour ce qu'on appelle les eyeballs est féroce.
J'aime toujours ça quand je reçois les réalisateurs et réalisatrices ici à l'émission, connaître un peu, pas nécessairement leur parcours, mais leurs influences, les artisans du cinéma qui leur ont donné le goût du cinéma. Je serais curieux de t'entendre un peu sur toi. C'est qui, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, actrices, réalisatrices encore une fois. Donc, qui t'a influencé, que ce soit pour Le mythe de la femme noire ou depuis même ton arrivée dans ce monde-là?
Bon, il y en a plein que j'adore. Ça va être très éclectique ce que je vais dire.
Oui, c'est parfait.
Une que j'admire, c'est Ava DuVernay, qui est une réalisatrice afro-américaine. Ouais. Je l'admire non seulement à cause de ses œuvres. Elle a fait des documentaires comme The 13th. Ouais. Elle a réalisé une mini-série qui m'a bouleversée, qui parle basée sur un carriel de quatre hommes noirs quatre garçons en fait, accusés d'avoir violé une femme à Central Park, puis qui était faussement accusée. Puis elle déconstruit tout ce qui s'est passé, qui ont mené à leur arrestation. Puis c'est bouleversant. Puis ce que j'aime de cette femme-là, c'est que non seulement c'est une grande artiste à mon sens, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui s'engage, qui s'implique, qui a une voix citoyenne. Elle a une boîte de distribution pour essayer justement de mettre de l'avant des voix qu'on n'entend pas assez chez les jeunes, chez les femmes. J'ai lu toutes les entrevues. Ouais. Je l'adore. Donc, il y a Ava DuVernay. Ouais. Denis Villeneuve, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Que j'aime encore, là, mais j'ai vu tous ses films. Puis quand il est arrivé avec Incendie, je me rappelle, je restais dans la salle de cinéma, j'ai braillé toutes les larmes. Encore, je venais de vivre un grand moment de cinéma.
Ouais.
J'en avais rarement vu. C'était. Pour moi, dans ce film-là, il y a tout ce que j'aime du cinéma. OK. qui j'ai aimé? J'ai quand même une geek, fait que les science-fiction, j'adore.
Ah oui?
Je me rappelle, quand j'étais au cégep, il y avait un concours, La guerre des étoiles, puis il fallait répondre aux questions sur La guerre des étoiles, fait qu'il y avait deux équipes, juste des gars geeks, blancs, avec de petites lunettes, puis la petite fille noire au milieu qui répondait aux questions aussi. Parce que j'adore, c'est un film que... des films. Le meilleur étant L'Empire contre-attaque. En tout cas.
Ça fait rêver. Ça travaille l'imaginaire. Hein? Puis, malheureusement, au cinéma québécois, on n'en a pas beaucoup
de
science-fiction.
Non, c'est trop cher.
Non, c'est ça. Hein.
C'est trop cher. Mais on se rattrape autrement. Il y a de grands créateurs ici. Mm-hmm. Puis bon, on laisse aux Américains la science-fiction, mais on a autre chose ici, puis c'est très bien.
Ben oui, exactement. Tu as plusieurs chapeaux. On le mentionnait, actrice, réalisatrice. Peut-être en terminant, est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus davantage que l'autre? Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais poursuivre pour le reste de ta carrière ou si tu veux vraiment voir les deux côtés de la médaille, devant, derrière la caméra?
Ah oui, j'adore les deux. Comme comédienne, justement, ce que j'aime, c'est ce lâcher prise et le fait que quand on dit couper puis it's a wrap, la journée est finie, je rentre à la maison. Ouais. C'est tout. J'apprends mes textes pour le lendemain. Comme réalisatrice, c'est pas ça du tout.
Quand ça dit couper, il y a encore plusieurs mois de travail.
Exactement. Mais par contre, d'être la source d'une histoire, j'adore ça. Puis comme ce que je vais faire ce soir à la Maison du cinéma, toutes ces années de travail avec toute l'équipe derrière moi, puis de pouvoir le présenter. Hier, c'était à Québec. Mm-hmm. Aujourd'hui, à Sherbrooke, de pouvoir le présenter comme ça à un public, puis d'entendre les commentaires, les témoignages, ouais. Les questions. Ça, c'est la partie que je préfère. Puis voilà. Donc, oui, j'aime les deux, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je vieillis, j'ai l'impression que la réalisation va prendre de plus en plus de place.
OK. Ah, ben, ça va être intéressant à suivre pour la suite. Ayana Oshun, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On rappelle à nos auditeurs et auditrices, Le Mythe de la Femme Noire, c'est en avant-première ce soir à la Maison du cinéma. Et sinon, ça prend l'affiche, encore une fois, à la Maison du cinéma, mais dans plusieurs des grands centres urbains du Québec, dès vendredi. Donc, Ayana, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci. Puis ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ont vu le film, la semaine prochaine, on va organiser un Instagram Live.
Okay.
Donc, les gens pourront aussi poser des questions, même s'ils ne sont pas ce soir avec les questions-réponses, la semaine prochaine. Donc, de surveiller les réseaux sociaux de Mythe de la Femme Noire.
Génial. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Ayana.
Merci.